Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Saleté, promiscuité, odeurs nauséabondes, l'hygiène des toilettes est souvent douteuse. On estime que dans le monde, 2,5 milliards de personnes vivent sans toilettes, principalement dans les pays en développement, et une femme sur trois dans le monde n'a pas accès à des toilettes salubres. Une situation qui présente des risques, car cela peut en effet avoir un impact sur la physiologie mictionnelle. Alors, quels sont les conseils dans ce domaine des toilettes? Quelle est la posture la plus adaptée? Constipation? Quelles sont les causes et les traitements? C'est ce qu'on va voir avec mon invité aujourd'hui, le professeur Amarinko, qui est chef du service de neuro-urologie à l'hôpital Tenon à Paris. Il vient de publier avec le docteur Agnès Sénéjou « Pathologie des toilettes » aux éditions Springer. Et si vous avez envie de participer, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Je répète, 33 1 84 22 75 75. Dans cette émission, nous aurons également au téléphone Bardia Tchombiano, qui est de l'association Toilettes du Monde au Gabon. Et pour terminer, on retrouvera la chronique du docteur Catherine Solano.
RFI.
Professeur Amarinko, bonjour.
Bonjour.
Docteur Catherine Solano, bonjour également.
Bonjour,
merci
Claire.
À tous les deux d'être là. Vous démarrez dans votre livre, professeur Amarinko, en disant « Pour les petites filles, l'école est un lieu problématique pour l'usage des toilettes. Pourquoi ?»
La problématique, parce que les toilettes sont pas toujours comme elles devraient être, et du coup, la miction ou la défécation qui doivent être réalisées dans ces lieux propices à une physiologie correcte ne le sont pas. Il y a un risque infectieux, toujours. Il y a parfois un risque de mauvais positionnement sur les toilettes qui peut déterminer à terme des troubles délétères pour la fonction vésicale.
Quand on parle de miction, on parle d'uriner.
Miction, c'est le fait d'uriner, c'est-à-dire de vider correctement sa vessie. Et c'est vrai que suivant la position que la petite fille va adopter, puisque vous parlez des petites filles sur les toilettes, peut rendre problématique le bon déroulement de la miction. Une miction normale, quand on vide sa vessie, on doit le faire sans effort, sans pousser, et pour que le jet soit facile et aisé, que la vessie se vide complètement. Si la petite fille, pour des raisons de propreté déficiente, pour des raisons de crainte de microbes, pour des raisons d'être peur d'être surveillée par des garçons qui pourraient regarder par-dessus le mur, adopte une mauvaise position, elle va mal vider sa vessie, va être obligée de pousser, va être dans une posture pas assez adéquate pour que la miction soit facile et complète. Et si la miction n'est pas facile et si elle n'est pas complète, il y a un risque d'infection urinaire, il y a un risque de mauvaise habitude, de comportement vésical qui va se prendre et qui peut déterminer sur le long terme, bien évidemment, des complications vésicales, voire rénales parfois.
Alors, il y a des enquêtes qui ont été menées en France justement sur les toilettes dans les écoles et qu'est-ce qu'il en ressort ?
Il en ressort que malheureusement, alors qu'on a des réglementations qui sont extrêmement précises et extrêmement bien faites, ces réglementations ne sont pas toujours suivies en termes d'hygiène, en termes de propreté, en termes de sécurité, en termes d'accessibilité, en termes de ventilation de ces toilettes. Et tout ça rend ces toilettes extrêmement inconfortables pour les petits garçons ou les petites filles qui vont à l'école, qui rendent difficile l'accès à ces toilettes, difficile leur utilisation et partant avec un risque de pathologie d'abord fonctionnelle. Mais ces pathologies fonctionnelles, c'est-à-dire de déroulement de la miction de la défécation, peuvent encore une fois à terme être délétères et entraîner des complications.
Alors du coup, les petites filles souvent se retiennent pendant toute la journée, évitent d'aller aux toilettes parce qu'elles sont soit pas propres, soit c'est les mêmes toilettes que les garçons, elles n'ont pas envie d'être surveillées. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact, par exemple, de se retenir ou au contraire, quand on vous dit prenez vos précautions, il faut y aller avant, est-ce que c'est aussi une bonne idée ou pas ?
Non, c'est une très mauvaise idée. Il faut souscrire aux besoins d'uriner. Lorsqu'on a envie de faire pipi ou lorsqu'on a envie d'aller à la selle, il faut souscrire à ce besoin et aller dans les conditions les plus physiologiques. Si on se retient, la vessie va petit à petit se dilater, se forcer, et il va avoir une difficulté ensuite à la vidanger totalement. Donc il va avoir un risque de résidu de la vessie, des urines après la miction, et ce résidu peut être source d'infections urinaires à répétition. Le deuxième problème, c'est que lorsque la petite fille se retient, elle va avoir des difficultés à déclencher cette miction, et donc le robinet qui ferme la vessie, au lieu de s'ouvrir très facilement, va rester un petit peu fermé, et cette vessie va lutter contre cet obstacle avec un risque de reflux des urines depuis la vessie au niveau des reins, et donc à terme, bien évidemment, risquer une dégradation du haut appareil au niveau des reins. Pour les selles, c'est strictement la même chose. Normalement, quand on va à la selle, on doit être dans une condition de facilitation de cette exonération de la défécation. On doit avoir une contraction de l'ampoule rectale et une ouverture simultanée de ce robinet qui ferme le rectum, qui est l'anus. Si, pour des raisons diverses et variées, la petite fille ou le petit garçon s'est retenu, ou au contraire qu'il essaye d'aller à la selle alors qu'il n'a pas le besoin, qu'est-ce qui se passe? Il va essayer de pousser, de contracter son rectum, mais sur un anus qui est fermé. Et du coup, il va avoir toutes les complications de la poussée abdominale qui est extrêmement nocive. Cette poussée abdominale peut, chez la petite fille, mais aussi chez la future maman et chez la femme plus âgée, à force de pousser sur un sphincter fermé, sur un anus fermé, on risque d'avoir des ptoses, des descentes, des chutes des organes périnéaux. On risque d'avoir des poussées hémorroïdaires. On peut être constipé. On peut avoir des complications très sérieuses.
Ça veut dire qu'il peut y avoir des répercussions à l'âge adulte.
Il peut avoir non seulement des répercussions, mais ça peut être une survivance d'une mauvaise éducation mictionnelle ou une mauvaise éducation de la défécation qui, toute la vie, va entraîner cette mauvaise poussée abdominale. Et cette poussée abdominale, à force de pousser, de pousser, de pousser sur cet anus fermé, ça va entraîner un étirement des nerfs qui s'occupe du sphincter anal et du sphincter urinaire. Et cet étirement des nerfs va petit à petit délabrer le système nerveux, le système de commande de cet anus. Et c'est l'histoire classique de ces petites filles, puis de ces jeunes femmes qui étaient constipées pendant des années, des années, des années. Et puis, tout à coup, vers l'âge de 40, 50, 60 ans, petit à petit, elles ne sont pas constipées, mais apparaît une incontinence au gaz, puis une incontinence aux selles liquides, puis une incontinence aux selles solides. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant des années, elles n'ont pas souscrit aux besoins de défécation, elles ont lutté contre cet anus fermé, elles ont poussé, cette poussée a entraîné un dégât nerveux, et comme le nerf a été abîmé, il va dénerver, il va endommager la possibilité de contraction du sphincter anal, d'où le risque d'incontinence. Donc on part d'une constipation pour terminer à une incontinence fécale. On perd les selles ou on perd les urines, ce qui est bien évidemment une grande altération en termes de confort, de qualité de vie chez ces femmes.
On part même de l'hygiène des toilettes, donc il y a tout à fait un lien entre ces problèmes d'hygiène des toilettes et de constipation finalement.
Absolument, il y a un lien entre l'hygiène mais aussi l'éducation. C'est un peu comme les parents qui veulent éduquer trop vite les gamins et les enfants à aller trop vite sur le pot. Alors qu'il faut encore une fois leur apprendre plutôt à respecter le besoin et à se décontracter pour uriner, à se décontracter pour déféquer. Mais effectivement, vous avez raison, il y a une filiation complète entre la propreté, l'hygiène des toilettes et puis d'éventuelles pathologies de type incontinence.
Donc moi, si je vous comprends bien, quand on nous dit « petit, prends tes précautions », en fait c'est une erreur. Il ne faut pas prendre ses précautions, il faut y aller quand on en a besoin.
C'est une précaution sociale, mais pas une précaution physiologique, en tout cas médicale.
Ça, c'est la première chose. Et quand on est à l'école et qu'on vous dit non, vous n'irez pas aux toilettes avant la fin du cours, c'est aussi une aberration.
Ça veut dire qu'il faut éduquer les enseignants avant d'éduquer les
enfants. Oui, il y a encore du boulot
enfants.
À faire. Alors.
Il y a encore beaucoup de travail.
On a Hassan qui nous appelle de Niamey au Niger. Hassan, bonjour.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, et j'aimerais savoir comment se comporter quand maintenant on est propre chez soi et que les saletés et promiscuités qu'on rencontre, c'est dehors.
Oui, c'est ça.
Quel comportement donc on doit adopter?
Quand les toilettes, on vous entendait peut-être pas très bien. Je vais vous répéter la question. Quand les toilettes sont pas très propres et que chez soi on a des toilettes propres, mais quand on est à l'extérieur, les toilettes sont pas très propres, qu'est-ce qu'on risque d'attraper si on va dans ces toilettes qui sont pas très propres?
On risque d'attraper la nausée parce que c'est pas très confortable sur le plan du confort. On risque aussi d'attraper des maladies parce que si l'hygiène n'est pas respectée, on peut avoir effectivement un certain nombre de microbes, un certain nombre d'agents infectieux qui peuvent contaminer la sphère périnéale, la région recto-anale ou vaginale chez la fille ou chez la fillette. Et ça peut être bien évidemment un mode de transmission d'un certain nombre de maladies infectieuses. Donc il faut absolument que l'hygiène des toilettes public soit respecté pour éviter ce type de contamination.
Alors, quelles sont les maladies infectieuses qu'on peut attraper avec les toilettes?
C'est tout ce qui est, on va dire, gastro-entérite avec tous les germes que l'on connaît. Ce sont des maladies qui sont transmissibles. C'est ce qu'on appelle le péril fécal. Ça peut être des parasites, ça peut être d'autres agents infectieux. C'est ce qui donne des diarrhées aiguës.
Et alors, du coup, on fait quoi quand on a finalement que des toilettes sales et que vous nous dites que c'est pas bon de se retenir trop longtemps? On fait comment?
Eh bien,
je fais conseil pratique.
Eh bien, le conseil pratique, c'est que nous sommes tous citoyens et qu'on essaye de faire bouger les choses. Sur le côté médical, malheureusement, il n'est pas possible de donner des conseils. On ne va pas se balader avec des produits désinfectants pour à la fois nettoyer, décontaminer ou désinfecter la lunette des toilettes. Mais c'est pourtant ce qu'il faudrait pouvoir faire. Et puis, bien évidemment, se laver les mains avant et après pour éviter toute contamination manuelle des germes éventuellement.
On retient quand même, se laver les mains avant et après, c'est important.
C'est capital.
On peut faire passer ce message-là. Merci beaucoup Hassan. Et on a Mohamed qui nous appelle du Sénégal. Mohamed, bonjour.
Bonjour Claire.
Nous vous écoutons.
Moi, en fait, je voudrais intervenir après pour des santé qu'on disait tout à l'heure. Bon, je disais, précisément, au Sénégal, il y a beaucoup de santé dans les rues, dans certains cas. Par exemple, pour certaines personnes, à la place de payer 15 000 francs ou pas à peu près 23 euros, aux autres vides leur compte.
Alors, Mohamed, je suis désolée, mais la ligne téléphonique est vraiment pas très très bonne. Donc, je vais me permettre de lire votre question. Vous dites que certaines odeurs aussi pourraient être causées par les maladies, ou est-ce que les odeurs pourraient rendre malades? Vous dites que les toilettes publiques sont souvent très très sales. C'est très compliqué pour les filles comme pour les garçons. Est-ce que l'odeur, simplement, peut rendre malade, professeur Marinko, ou pas?
L'odeur est bien évidemment dérangeante parce qu'elle n'est pas fort agréable. C'est certain, mais l'odeur en elle-même ne va pas contaminer, ne va pas déterminer une infection, un processus infectieux au niveau du corps. Absolument pas.
Non, ça, il n'y a pas de...
Mais ça peut être une manière, une forte réticence, et notamment pour les enfants, d'utiliser à bon escient les toilettes. Donc, il est évident que l'odeur... Dans les réglementations auxquelles on faisait allusion tout à l'heure, la ventilation des toilettes est quelque chose d'important et fait partie des mesures d'hygiène.
Merci beaucoup, Mohamed. On va revenir tout au long de cette émission, justement, sur cette question d'hygiène des toilettes. Aujourd'hui, dans Priorité Santé sur RFI, nous parlons des pathologies des toilettes avec le professeur Gérard Amarinko, qui est chef du service de neuro-urologie à l'hôpital Tenon. Et je vous propose d'écouter le témoignage d'Emma, qui a 65 ans. Elle souffre de problèmes anorectaux depuis 2 ans. Elle est atteinte de sclérose en plaques. Et d'ailleurs, c'est une de vos patientes, professeur Amarinko. On l'écoute.
Elle progresse comme toute sclérose en plaques par poussée et il se trouve que les dernières atteintes ont touché les fonctions anorectales.
Avant que vos fonctions anorectales soient touchées, vous souffriez déjà de constipation?
Oui. Lorsque j'étais à l'école primaire, je détestais aller aux toilettes, je n'y allais pas, parce que je n'aime pas être enfermée, je n'aime pas les lieux clos. Je m'abstenais. Je pense que ça a majoré la constipation une fois devenue adulte. Donc le fait de se retenir provoque effectivement des douleurs abdominales. Et ça, je me souviens bien avoir souffert de ce problème.
Comment ont débuté ces troubles il y a 2 ans?
Je suis suivie par le professeur Lyon Kang, qui est neurologue à la Salpêtrière à Paris. Et puis je me suis confiée à lui parce que j'avais des troubles à l'époque vésicaux. Et donc, il m'a tout de suite adressé à son confrère, professeur Gérard Amarinko. C'est-à-dire que j'ai dit que j'avais des troubles vésicaux, ce qui était la vérité. C'est-à-dire que j'avais des problèmes d'incontinence urinaire. Mais en réalité, je n'osais pas dire que j'avais, en plus de ces problèmes vésicaux, des problèmes anorectaux. Et lorsque j'ai rencontré le professeur Amarinko, la situation s'était aggravée, c'est-à-dire que j'avais failli faire une occlusion intestinale.
Alors, comment vous en êtes venu à mettre des mots sur ce problème, si c'était difficile pour vous, a priori, d'en parler?
Parce qu'il y a eu tout un temps d'élaboration intellectuelle, c'est-à-dire qu'il y avait la souffrance quotidienne, le fait de ne pas pouvoir aller aux toilettes, c'est-à-dire que je pouvais passer une semaine sans aller aux toilettes. Et quand j'allais aux toilettes, c'était extrêmement pénible. C'est-à-dire qu'il fallait rester déjà très longtemps aux toilettes. Et puis, souvent, c'était infructueux. Donc, il fallait se livrer à ce qu'on appelle des manœuvres digitales, qui sont quand même pas très agréables. Donc, je crois que à partir du moment où j'ai compris que je ne pouvais plus vivre ainsi, il fallait bien que je passe à l'action, à l'acte, c'est-à-dire en parler à une personne dont l'oreille bienveillante était là pour m'entendre et pour m'aider. J'étais très mal. J'avais l'impression que je ne pouvais plus rien avaler, que j'étais saturée.
Est-ce que vous preniez des laxatifs pour vous aider?
Oui, mais ça ne servait quasiment à rien. Lorsque je suis allée à l'hôpital Tenon pour consulter d'abord M. Marenko, il m'a proposé plusieurs solutions, dont un dispositif d'irrigation transanale colique qui s'appelle Péristine. C'est un dispositif qui se compose d'une poche en plastique que l'on remplit d'eau à température du corps. Et de l'autre côté, il y a une sonde rectale. Et cette sonde rectale, bien sûr, il faut l'introduire là où il convient.
Est-ce que c'est douloureux?
Ce n'est pas très agréable, mais je sais que ce sera pour un bien. Donc, je l'accepte. Et normalement, les matières fécales viennent, soit spontanément, parfois ça demande du temps, jusqu'à peut-être une demi-heure.
À ce moment-là, vous, vous ressentez une libération?
Oui, une grande fatigue, mais aussi un soulagement.
Et vous faites ces gestes combien de fois par semaine?
En principe, tous les 2 ou 3 jours. Mais je ne dois pas oublier néanmoins de prendre le traitement habituel, c'est-à-dire des laxatifs par voie orale.
Et alors, est-ce que vous suivez un régime alimentaire particulier?
J'essaie de privilégier les fruits et les légumes. Je ne mange pas beaucoup de viande, je mange du poisson. Je consomme très très peu d'alcool. Peut-être que je ne fais pas assez d'activité physique, mais je ne peux pas en raison de mon état de santé.
Est-ce que vous pratiquez des massages abdominaux?
Oui, et je fais ça pendant l'irrigation.
Le fait que vous ayez ce problème, est-ce que ça a contribué à modifier l'image que vous avez de vous?
Je n'ai pas la sensation de la souillure. Par contre, il y a déjà la contrainte de le faire, la peur que ça ne fonctionne pas, donc la peur de retomber dans de nouveaux problèmes.
Est-ce que vous en avez parlé à votre compagnon?
Oui, mais j'ai mis du temps. Disons qu'il l'a su avant le corps médical, mais j'ai mis beaucoup de temps avant de lui dire.
Vous aviez peur de le dégoûter?
Déjà, on se dégoûte soi-même, donc on peut comprendre que les autres soient dégoûtés.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, je reçois le professeur Gérard Marenko, qui est chef du service de neuro-urologie à l'hôpital Tenon, et nous parlons des pathologies des toilettes. Professeur Marenko, on vient d'écouter le témoignage d'Emma. J'aimerais bien votre réaction. D'abord, sur un premier point, qui est la question du tabou. Elle le dit bien, elle a mis du temps à consulter. C'est quand même des sujets, c'est pas facile d'en parler. C'est même pas facile d'en parler à son médecin.
Non, c'est toujours effectivement un tabou. Ça reste un tabou même en 2013. Pourquoi? Parce que ça renvoie bien évidemment à notre propre intimité, à notre propre questionnement en termes de corps, en termes corporels, en termes psychologiques, en termes d'éducation. Donc c'est toujours quelque part quelque chose de caché. C'est parfois aussi quelque chose qui est vécu comme un phénomène quasiment normal, soit de vieillissement, soit de inhérent à la condition féminine. Et pour un certain nombre de patients, même au cours des pathologies neurologiques comme pour cette patiente, il y a un tel questionnement qu'il est parfois difficile de franchir le pas et d'exprimer la gêne en termes de troubles anorectaux. C'est un peu moins vrai désormais pour les troubles vésico-sphinctériens, c'est peut-être encore moins vrai que pour les troubles génitosexuels, puisqu'on parle de plus en plus de sexualité avec l'émergence de certaines thérapeutiques médicamenteuses ou non médicamenteuses. Ça reste très caché, très problématique pour les patientes, pour les troubles anorectaux.
C'est quand même beaucoup plus compliqué d'en parler, nous, c'est l'impression qu'on a. Alors, Emma, elle souffre, qu'on vient d'entendre, elle souffre de sclérose en plaques. Alors, quel est justement l'impact des atteintes neurologiques, finalement, sur les troubles urinaires et fécaux?
Alors, les maladies neurologiques, toutes les maladies neurologiques à 99% peuvent déterminer des troubles vésico-sphinctériens, anorectaux ou génitosexuels. Pourquoi? Parce que la commande physiologique de la contraction de la vessie, de la contraction du rectum ou la commande qui permet l'orgasme ou l'érection se situe soit au niveau du cerveau, soit au niveau de la moelle épinière. Il y a des voies de relais entre le cerveau, la moelle épinière, le système nerveux périphérique et ses organes. Donc, n'importe quelle maladie du cerveau, les accidents vasculaires cérébraux, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, toutes les pathologies de la moelle épinière, comme la sclérose en plaques, les paraplégies traumatiques, les phénomènes arthrosiques au niveau cervical ou au niveau lombaire, les hernies discales, les maladies périphériques comme le diabète ou l'alcoolisme ou d'autres neuropathies, peuvent déterminer des troubles anorectaux, vésico-sphinctériens et génitosexuels. Et c'est parfois d'ailleurs même un mode de révélation
Et on verra justement dans la deuxième partie comment on diagnostique et aussi comment on traite ces pathologies. On se retrouve dans 3 minutes.